Bonjour à tous et bienvenue donc à cette table ronde sur le sujet du Big Data. Je reçois aujourd'hui, dans l'ordre, Olivier Hirschheid, qui est chercheur en sciences de l'information et de la communication, notamment à l'Université de Nantes et de La Roche-sur-Yon. L'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « L'appétit des géants » qui est en relation avec le Big Data, si je ne m'abuse, et qui a un blog, affordance.info.
C'est ça.
C'est ça, dans le micro. Jacques Priol, dirigeant territorial, cofondateur de la société de conseil et stratégie Civitéo, et auteur d'un ouvrage « Le Big Data des territoires », qui sera en dédicace juste après la table ronde. Et Pierre-Antoine Gouraud, généticien et docteur en biologie à l'Institut, à côté, au CHU, c'est ça ?
Juste à côté, bonjour.
Bonjour. Qui en particulier fait de la recherche et utilise les big data dans le domaine de la médecine et en particulier sur la sclérose en plaques. Voilà, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, la première question, finalement, ça va être le big data, comment est-ce que vous le définiriez, Jacques?
Bien, bonjour à tous. Alors, pour définir le big data, et d'avance en m'excusant auprès des spécialistes, je vais essayer d'imager un petit peu les choses pour vous en donner une illustration, une compréhension. On met beaucoup de choses derrière ce mot. Quand on dit big data, ce qu'on comprend, c'est que c'est des grosses données. Données massives, en bon français, donc beaucoup de volume. Mais quand on regarde un petit peu la littérature sur le big data, on se rend compte que le volume en lui-même ne suffit pas pour caractériser ce qu'on appelle le big data. Beaucoup de données sur un seul sujet, ça ne fait pas du big data. Par contre, si on commence à croiser beaucoup de données sur un sujet ou beaucoup de données d'un certain type avec beaucoup de données d'un autre type, on va commencer à avoir des choses plus intéressantes, plus importantes. Et donc, à côté du volume, on va parler de variété. Et ensuite, ces données, elles vont être souvent des données qui se mettent à jour de façon régulière, des informations qui sont rapides, qui sont véloces. Et on va dire que le big data, c'est quand il y a du volume, de la variété et de la vélocité. Dans tous les manuels ou sur tous les sites internet, vous verrez, on appelle ça la règle des 3 V. Alors certains vont rajouter d'autres V, un V sur la valeur, un V sur la véracité pour qu'on ne traite que des données qui soient vérifiées. Mais la règle des 3 V, volume, variété, vélocité, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on appelle le big data. Alors concrètement, c'est quoi? C'est des masses de données très importantes qui sont stockées dans de multiples endroits. Le big data n'existerait pas si on n'avait pas assisté au cours des années écoulées à une évolution absolument colossale et phénoménale des capacités de stockage. Et en parallèle, des données qui sont traitées, analysées, décortiquées. Et on a assisté en parallèle dans les années qui viennent de s'écouler à une augmentation des puissances de calcul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire du traitement de type big data, on va appeler ça du traitement algorithmique, je vais dire un mot de ce que sont les algorithmes, on peut utiliser des ordinateurs qui en apparence ressemblent aux ordinateurs de monsieur et madame tout le monde, en tout cas des ordinateurs qui ne prennent pas beaucoup de place, là où il y a quelques années encore, il fallait des salles de serveurs aussi grandes que cette pièce. Donc le big data, c'est à la fois beaucoup de données qui bougent dans plein de domaines différents qu'on est capable de traiter. Et c'est là qu'interviennent les fameux algorithmes qui sont donc des manières de combiner ces données pour essayer d'en tirer des enseignements. Et un algorithme, ça n'est pas quelque chose de magique. Un algorithme, c'est surtout dans la manière dont on emploie ce mot aujourd'hui de façon courante. D'abord, le mot, il n'est pas récent. Un algorithme, c'est une manière logique de régler un problème. Et c'est des choses qui sont utilisées en mathématiques depuis des décennies. Et bien souvent, dans les algorithmes qui sont utilisés dans le big data aujourd'hui, ce sont avec des règles, notamment de mathématiques, de statistiques et de probabilités, qui sont des règles qui, pour certaines, sont aussi très anciennes et ont été utilisées par des mathématiciens, depuis longtemps. Ce qui est nouveau, par contre, c'est que ces algorithmes, ils traitent justement des volumes de données qui sont complètement inédits, avec des puissances de calcul qui sont complètement inédites, à une rapidité qui est complètement inédite, pour trouver des résultats et des manières de faire qui sont complètement inédits. Et c'est cela, le big data. Pour terminer sur cette présentation, peut-être une image qui concerne Google. Google, c'est un acteur important de tout ça. Ils ont été parmi les premiers à devoir traiter du big data parce qu'ils étaient parmi les premiers, je ne porte pas de jugement, on aura certainement l'occasion de discuter d'ailleurs sur la manière dont ils utilisent les données, ce qu'ils en font, mais ça a été un des premiers acteurs à l'échelle mondiale à être confronté à des problématiques de stockage et de traitement de données absolument colossales. avec au départ le moteur de recherche. Pour comprendre ce que ces volumes représentent, si on imagine l'unité de base du stockage informatique, c'est le kilo-octet, des 8 chiffres 0, 1, 0, 1. KO, c'est une unité, c'est l'octet, pardon, c'est l'octet, pardon. Le kilo-octet, KO, c'est une unité que certains d'entre vous, les plus anciens qui ont commencé l'informatique avec les débuts de l'informatique, vous rappelez qu'on notait KO des fois sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on l'utilise plus du tout. Un kilo-octet, si on imagine que l'octet, c'est un grain de riz, un kilo-octet, c'est un verre de riz. Un méga-octet, ça, on a un peu plus l'habitude, c'est deux sacs de riz. Un giga-octet, unité que nous utilisons tous les jours, c'est deux semi-remorques de riz. Un tera-octet, on commence à l'utiliser assez fréquemment, ceux qui téléchargent, légalement ou pas, peu importe, achète des disques d'un tera maintenant. C'est 40 km de semi-remorque, plein de riz, un tera-octet. Après, il y a des péta, des hexa, des éta, des iota-octets. Le volume de données utilisé, stocké par Google aujourd'hui, représente en grains de riz la totalité de l'océan Pacifique en surface et en profondeur.
Ça, c'est impressionnant. Pierre-Antoine, Olivier, vous avez quelque chose à ajouter à cette définition ?
Voilà, très rapidement, je crois qu'effectivement, ce qui change, c'est l'effondrement du coût et de notre capacité à stocker des datas, on pourrait dire peut-être des enregistrements. Hein, l'image du grain de riz est très bonne. On a la capacité à stocker de l'information, on n'avait pas la possibilité avant, ou on en avait peut-être l'idée, mais les coûts étaient tels qu'on n'avait pas la possibilité de stocker cette information. Alors moi je vais plutôt parler du big data dans le domaine de la santé, mais un génome par exemple c'est quelque chose qui remplirait une bibliothèque s'il fallait écrire chacune des 3,6 milliards de paires de bases qui sont inscrites dans le génome. Et finalement le génome ne dit pas grand chose de la complexité du vivant, et pourtant aujourd'hui avec les moyens informatiques, les moyens biotechnologiques, on a la capacité de capter de l'information, d'enregistrer à un moment donné ou dans le temps l'évolution d'un système complexe comme le vivant.
Et j'ajoute juste, bonjour, j'ajoute juste deux choses. Autour du big data, il y a deux problématiques qui me semblent en tout cas importantes. La première, c'est la problématique de la captation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on attrape ces données. Et là, on est dans des logiques où on ne se contente pas évidemment de capter des données qui sont fournies explicitement, mais on capte des données de manière un petit peu souvent implicite, une espèce de logique infra de captation de données, qui se dérobe totalement au regard et à l'explicite. Et l'autre aspect qui me semble important, c'est l'utilisation ensuite qui pourra être faite de ces données, sachant qu'une donnée d'abord n'est jamais neutre, et qu'ensuite une donnée, souvent dans ce qu'on appelle le big data, les données sont utilisées en dehors du champ pour lequel elles avaient été captées. C'est-à-dire que par exemple, on a des données qui ont été captées dans un champ de données et qui sont utilisées par des assureurs, alors qu'au début, ce n'étaient pas des données liées à l'assurance, ce sont des données comportementales, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que le big data, en plus de tout ce qui vient d'être dit, pose des enjeux de société qui sont aussi considérables.
Justement, c'est ce dont je voulais qu'on parle après, c'est ces données-là, comment est-ce qu'on les obtient ? Alors, il y a énormément de choses différentes hein, dans la captation de données. Il y a les données sociales dont vous parlez à l'instant, les données médicales, les données aussi, ça rentre aussi dans le big data, les données climatiques, les données scientifiques, les données d'astrophysique. Donc, cette collecte de données, comment est-ce que ça se passe ? Alors, on va commencer avec... Avec vous, Pierre-Antoine ?
Alors, nous, on peut prendre un exemple juste à côté de nous, au CHU. C'est encore un peu vrai, mais dans certains services, on est passé au tout numérique. Pour des questions de sécurité, pour des questions de place, de coût, toutes les données qui sont générées à l'occasion d'une activité de soins, eh bien aujourd'hui elles sont numériques et ça permet de mieux les partager, de éventuellement moins les perdre, de les rendre plus accessibles. Traditionnellement, ces données, elles sont centrées sur un objectif qui est le soin et la mise à disposition d'informations pour un patient pour lequel on doit prendre une décision. Mais ces données, une fois stockées, elles sont peut-être l'occasion d'une deuxième vie, d'une capacité à les réanalyser. Et donc, pour rejoindre ce que disait Olivier, là, il faut faire attention, parce qu'on touche vraiment à ce qu'on appelle, alors c'est un peu compliqué, l'intentionnalité des données. Dans un des traits qui caractérise le big data, c'est qu'il y a peut-être effectivement un affaiblissement de cette intentionnalité des données. On va analyser des données qui n'ont pas été collectées nécessairement pour le but pour lequel on va les analyser. Typiquement, nous, pour les scientifiques, on aimait bien faire des protocoles de recherche, on planifie le recueil des informations en vue de répondre à une question. Ben là, il faut accepter que ce sont des données qui sont à notre disposition, mais qui n'ont pas forcément été collectées pour faire de la recherche, elles ont été collectées pour faire du soin. Néanmoins, c'est quand même intéressant parce que ça nous permet éventuellement de réanalyser ces informations et peut-être, en tout cas c'est une des ambitions que l'on porte très fortement à Nantes, que chacune des données qui sont collectées dans le cadre d'une activité de soins, elles puissent avoir une deuxième vie et créer ce qu'on appelle une solidarity, c'est-à-dire une solidarité entre les patients qui passe non pas par notre système de protection sociale, mais par le partage de l'information pour essayer de prendre une meilleure décision pour chacun des patients grâce aux données collectées chez les autres. Donc c'est cette idée que l'on peut faire passer la solidarité par le partage de l'information. Et c'est finalement des choses que l'on pratique déjà, c'est pas toujours tout à fait nouveau. Un de mes exemples favoris, vous êtes tous passés chez le pédiatre. Le pédiatre vous a pesé, vous a mesuré. Et plutôt que d'avoir un grand débat avec votre maman pour savoir si vous aviez les joues un petit peu rondes ou si au contraire vous étiez pas très gros, eh bien, le pédiatre a utilisé les données de tous les autres patients dans une courbe de référence pour vous dire là, madame, votre fils, là, il est dans le top 5% des gros enfants, vous inquiétez pas. D'ailleurs, pour sa taille, il est dans le top 5%. Ça veut dire qu'on a utilisé les données de tous les autres pour mieux comprendre comment se place l'un par rapport aux autres. Eh bien, c'est une forme de solidarité par les données entre les patients. Et puis, pour nous en médecine, eh bien, ça réconcilie deux visions qu'on articule souvent. La vision populationnelle de la santé, qui est propre, on en parlera peut-être, à la vision des politiques de santé, à la vision de santé publique, l'épidémiologie. Et puis la vision très clinique, hein, le médecin, le cœur de son activité, c'est de prendre une décision pour un patient. Donc échelle individuelle, échelle populationnelle, c'est cet aller-retour que le big data nous permet aussi peut-être de faire plus vite.
Jacques ?
Il y a plusieurs types de données. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en capacité, j'allais dire, de stocker tout et n'importe quoi. Peut-être pas c'est péjoratif de dire comme ça, mais on peut stocker énormément de choses. D'abord, il y a des données qui sont facilement accessibles parce qu'elles sont faites pour cela. C'est notamment tout ce que l'on va appeler l'open data. Pour ma part, je travaille dans le champ de l'action publique, de la gestion urbaine, de la gestion des villes. Aujourd'hui, en France, nous sommes le seul pays au monde dans lequel une loi a été votée pour obliger toutes les communes de plus de 3500 habitants à ouvrir leurs données. Ce sont des données non pas sur les citoyens, mais les données sur leur gestion, sur leur activité, sur la manière dont le développement de la ville se fait. Le mouvement de l'ouverture des données, il est récent, il date d'il y a une quinzaine d'années, il nous vient des États-Unis, du Canada, il est arrivé en Europe assez rapidement. L'idée qu'il y ait des masses absolument colossales de données qui touchent à l'intérêt général, qui soient par la loi obligatoirement ouvertes, constitue une source de données très importante pour des analyses big data dans tout un tas de domaines. Après, il y a nos données à nous. Et nos données à nous, nos données personnelles. Il y a une distinction. Alors la CNIL n'aime pas trop qu'on raisonne comme ça parce qu'elle considère, à juste titre, ça c'est un jugement que je porte, que les données personnelles, elles sont personnelles quoi qu'il advienne. Mais dans la manière dont on utilise et dont on dévoile et dont on confie, dont on donne, dont on offre, nos données personnelles, il y a des données qu'on offre dans le champ public et des données que l'on souhaite garder privées. Je vais prendre un exemple qu'on a tous en tête qui est celui des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a des espaces privés, des espaces publics. On a un profil Facebook et il y a des choses qui sont partagées qu'avec des amis dans des groupes particuliers. Ça, on le sait. Au début, on ne le savait pas, on en a pris conscience et progressivement, beaucoup ont des stratégies de ne garder dans les espaces publics que le minimum de choses pour pouvoir être en réseau dans les réseaux sociaux que dans des espaces privés. Ce qu'on sait moins, c'est que la partie publique, elle n'est pas seulement consultable sur Internet par quelqu'un qui va aller voir votre profil. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la partie données publiques, elle est vraiment publique. Elle est mise à disposition. Et pas mise à disposition pour consultation, elle est mise à disposition par des interfaces qu'on appelle une API. Facebook, Twitter et compagnie mettent à disposition de tout un tas d'opérateurs publics ou privés l'ensemble des données publiques des profils. Pour faire quoi ? Pour pouvoir les récupérer et faire du big data. Faire du profilage, faire du ciblage, faire du marketing, proposer des pubs, proposer des produits ou tout un tas d'autres choses. On en parlait hier dans une autre table ronde, rapidement, faire de l'analyse électorale, par exemple.
Oui, j'ai juste rajouté peut-être deux choses sur la captation en elle-même. Il y a une des questions essentielles aujourd'hui qui se pose, c'est la question du consentement préalable et éclairé de l'utilisateur, notamment pour les données médicales, évidemment.
Non, mais le consentement, c'est simple, c'est la toute petite ligne en bas des conditions d'utilisation.
Oui, c'est les CGU qu'on coche et que personne ne lit. Ouais, ça, effectivement, ça c'est typiquement un consentement non éclairé. Donc le consentement éclairé et explicite, l'idéal c'est de l'obtenir de l'utilisateur avant de capter ses données. Après, il y a une logique qui est qu'aujourd'hui effectivement le volume, la masse des données captées en temps réel est telle que si on doit demander à chaque fois à l'utilisateur son consentement préalable, éclairé et explicite, ça va devenir très compliqué pour un certain nombre de ces sociétés. En tout cas, c'est leur argumentaire pour expliquer qu'elles préfèrent faire ce qu'elles ont toujours fait, c'est-à-dire prendre tout ce qui est à disposition. Et si vous vous apercevez éventuellement un jour qu'il y a des données à vous et vous ne souhaitez pas qu'elles soient là, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'opt-out, c'est-à-dire de demander à ces sociétés à ce que vos données soient, certaines de vos données soient retirées. Donc ça, c'est le premier point, la question du consentement. Et le deuxième point, qui me paraît là aussi important, c'est la différenciation, ça a été évoqué, mais entre les données publiques et les données privées. On est dans des champs, cette fois-ci, là, où il y a des mécanismes antagonistes qui sont très très forts. Je vais vous donner juste un exemple. En France, on a une des plus grosses bases de données médicales qui est produite par l'assurance maladie notamment, qui s'appelle la base de données SNIRAM. Système national d'information inter-régime de l'assurance maladie. Il y a 1,2 milliard de feuilles de soins qui sont rentrées là-dedans chaque année, 500 millions d'actes médicaux, 11 millions de séjours à l'hôpital, etc. etc. Cette base de données, pendant très longtemps, elle était fermée aux acteurs privés, c'est-à-dire aux acteurs comme les assureurs, par exemple. Le Conseil d'État, l'année dernière, a décidé d'ouvrir cette base de données aux assureurs. Je ne suis pas en train de vous dire que les assureurs sont tous des méchants, des voleurs ou des escrocs, mais la question. Alors, il y a des conditions. Hein. Il faut que ce soit pour réaliser des études d'utilité publique, etc. Mais on voit bien qu'il va y avoir une question centrale qui est ce pilotage de ces énormes volumes de données. Si on laisse des sociétés ou des acteurs privés, des acteurs marchands, accéder à ce type de données-là sans mettre des contre-pouvoirs ou des. Assez important, on va aller vers effectivement une logique de dérégulation qui va être problématique dans des secteurs comme la santé, le politique, l'assurance, sur tous ces enjeux-là. Donc la question des données publiques et des données privées, elle est aussi assez sensible.
Alors, je peux peut-être réagir un petit peu, parce qu'effectivement, l'open data en matière de santé n'a parfois d'open que le nom. Accéder aux données SNIRAM, c'est extrêmement compliqué, y compris pour les gens qui génèrent ces données pour l'assurance maladie. Et il y a une discussion, je dirais, intense et relativement sereine qui se fait avec la CNIL, avec le pouvoir judiciaire. Et par exemple, puisque c'est mon service à l'hôpital de Nantes qui va médier l'accès aux données générées localement par l'hôpital et puis être un portail parmi d'autres pour accéder aux données du SNIRAM, donc ce système national informatisé des données issues de l'assurance maladie. C'est un tout petit morceau hein, des données de santé, c'est les données qui sont générées par les actes de remboursement. Ça permet de faire beaucoup de choses. Eh bien, il y a une notion.
En gros, c'est la carte vitale.
C'est la carte vitale et toutes les activités de remboursement des prescriptions, hein, en particulier, et c'est relativement facile à identifier, à quel médicament est remboursé pour lesquels. Donc c'est effectivement énormément d'informations. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, dont là on peut discuter leur valeur éthique. Ce qui est important, c'est que la loi nous impose la médiation d'un tiers. Et je crois que nos institutions publiques, l'hôpital, c'est un hôpital public, fait partie des institutionnels qui sont le garant de l'utilisation de ces données. Ça permet de replacer au centre du débat la question des usages. Ces données, elles sont disponibles, on a les techniques informatiques, on a des gros ordinateurs, des grosses bases de données. Pourquoi on le fait? On peut utiliser les mêmes algorithmes, les mêmes données pour des buts très différents. Détecter des patients qui ont des addictions aux opiacés, donc qui, en gros, c'est des patients, ils passent d'une pharmacie à une autre, chercher le médicament, ils font des photocopies de la prescription. Dans la base de données, en fait, ça se voit. Donc, est-ce que c'est pas des gens pour lesquels on peut essayer de proposer un accompagnement, par exemple, et en repérant ces signatures-là. Il y a des médecins qui sont plus complaisants que d'autres, bah, on peut le voir aussi, certains, on peut s'interroger sur le caractère éthique de leur pratique. Bon, bah, c'est des données qu'aujourd'hui on peut avoir, avant c'était un petit peu compliqué. Donc ça permet vraiment de placer au centre du débat la question des usages de ces données. Et à mon avis, c'est une occasion aussi d'être plus humain, en fait, de dire voilà, mais on a les moyens de le faire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'on choisit dans la société de faire avec ces données et ces capacités de calcul que l'on a.
Mais justement, vous parliez des médecins et des pratiques des médecins où finalement la question c'est aussi, on a des données, bon, on a collecté plein de données, comment est-ce qu'on les interprète? Un indicateur, une donnée c'est un indicateur, ça peut servir d'indicateur, si l'indicateur est mal interprété, on peut en tirer des conclusions qui sont fausses ou on peut avoir des problèmes. Donc comment est-ce qu'on interprète les données qu'on recueille et quels sont les outils dont on dispose pour le faire?
C'est une question centrale. Je pense que c'est pas spécifique à la santé. Hein. Il faut comprendre comment la donnée est générée, comment elle est organisée. C'est pour ça que cette question tout à l'heure, désolé du mot un peu barbare, mais de l'intentionnalité de la donnée enregistrée, elle est très importante. Si vous comprenez ce que c'est qu'est l'activité d'un médecin urgentiste qui n'a pas le temps de remplir le poids, la taille, les antécédents parce qu'il a une décision à prendre aux urgences jusqu'à côté, là, sous l'hélicoptère, oui, on va pas avoir forcément les mêmes données. Et un exemple typique, c'est que les données de poids, elles sont très mauvaises parce qu'on n'a pas le temps de les enregistrer. Puis c'est pas le lieu, c'est pas important. Donc il faut comprendre comment ces données sont générées. C'est certainement vrai aussi dans toutes les données issues, par exemple, de données issues de l'activité d'une ville. C'est vrai aussi pour le supermarché, c'est vrai pour du commerce en ligne ou de la navigation Internet.
Oui, la nature, l'origine de la donnée, qu'est-ce qu'elle dit véritablement, la manière dont les algorithmes vont les traiter, c'est des questions de méthodologie, c'est des questions scientifiques, c'est des questions mathématiques, mais qui existent dans les autres modèles que l'on avait, que l'on a encore et que l'on avait avant le Big Data. Avant le Big Data, pour comprendre un phénomène, que ce soit la météo, pour comprendre des problématiques médicales, bien évidemment, à très grande échelle, pour comprendre des phénomènes sociaux, on avait par exemple les sondages. Et les sondages... Ce qui est compliqué avec le big data, c'est qu'on a du mal à comprendre ce que ça fait concrètement un ordinateur qui a des algorithmes et des données aussi importantes. Alors qu'un sondage, notre cerveau humain le comprend et on a été formé pour ça à l'école. Un sondage, c'est on prend un échantillon d'une population, on examine des données médicales par exemple, on pose des questions aux gens et on a des résultats qui sont tangibles à une petite échelle et on comprend bien que si l'échantillon il est tout petit par rapport à une grande population, quand on fait l'extrapolation, il y a une marge d'erreur importante, que si l'échantillon est plus grand et qu'il est très représentatif, la marge d'erreur, elle est moindre. Le big data, il fonctionne complètement autrement. Quelque part, il y a cette ambition, cette vision, cette idée qu'on va embrasser l'ensemble des données de l'ensemble de la population concernée. Et que d'une certaine manière, la source d'erreur, elle va diminuer par le grand nombre. Et que la façon dont on va prédire derrière un certain nombre de choses... C'est valable pour des modèles préventifs en médecine, mais c'est valable. Les modèles prédictifs, ils ont d'abord été inventés pour prédire nos comportements de consommateurs. Ils sont redoutables, ces modèles. Ils induisent des choses, on peut avoir des débats. Il y a des débats très importants sur la manière dont ils induisent tellement fortement les choses qu'ils nous privent d'une part de notre liberté de choix ou même de notre libre arbitre. Mais en même temps, ils sont efficaces et ils sont mesurés. Donc la question de la validité, elle vient d'une certaine manière, elle se vérifie à l'épreuve de ce que le big data génère. Je vais prendre un exemple concret pour l'illustrer. Amazon. Ce qu'on ne sait plus, parce qu'aujourd'hui on connaît Amazon, supermarché en ligne qui livre en 24 heures, tout et n'importe quoi en 24 heures. Amazon, au départ, c'est une librairie. C'est une librairie en ligne. L'idée, c'est ça. Et au départ, pour conseiller les livres chez Amazon, on avait quoi? On avait des libraires. Chez Amazon, il y avait un collectif humain de critiques littéraires qui publiaient en ligne des recommandations. Et très rapidement est arrivé un algorithme qui d'ailleurs a été maintenu en concurrence avec les hommes qui faisaient ces recommandations sur des segments différents de marché jusqu'au moment où l'algorithme s'est avéré un meilleur recommandeur d'achat, prescripteur d'achat que le collectif humain qui a été renvoyé à la maison.
Grâce quand même à l'intervention des internautes qui évaluent les livres qu'ils lisent et choses comme ça. Il y a quand même de l'humain pour fournir la donnée.
Alors, qui évalue, c'est une chose. Il y a les commentaires, mais surtout, ce n'est pas le plus important, l'évaluation. L'évaluation, c'est qui on est, où j'habite, quel âge, et toutes les informations que l'on rajoute au fur et à mesure. Et à chaque commande, on rajoute une information supplémentaire. Et on le fait de façon assez naturelle et assez logique, parce qu'on considère consciemment ou inconsciemment que c'est le prix à payer pour avoir le bouquin ou autre chose 24 heures après dans la boîte aux lettres.
Olivier ?
Alors, moi, ce qui me semble là aussi important, c'est l'idée qu'on est en train de revenir un petit peu sur ce qui a longtemps été, non pas un dogme, mais en tout cas une croyance assez répandue, qui était la croyance dans la neutralité de la donnée. On sait souvent, on a dit, une donnée de poids, d'âge, etc., c'est neutre, parce que ça, finalement, ça n'apporte d'informations qu'à partir du moment où c'est mis en contexte. Et aujourd'hui, enfin, beaucoup de chercheurs, en tout cas, qui travaillent sur ces questions, sont assez d'accord pour dire qu'une donnée n'est jamais neutre, a fortiori d'aussi grands volumes de données sont tout sauf neutres. Une donnée, elle est neutre tant qu'elle n'est pas utilisée. À partir du moment où elle est utilisée, on revient sur la question de l'intentionnalité, elle est utilisée pour faire quelque chose. Et il est vital qu'on puisse avoir une vision claire et qu'on puisse ouvrir la boîte pour voir à quoi seront utilisées ces données qui sont collectées en permanence dans des champs divers et pour des utilisations qu'on ne soupçonnait pas au départ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une donnée ou des données sont utilisées dans un cadre algorithmique, où elles s'inscrivent dans un système de valeurs. Des données de santé, quand elles sont utilisées par des assureurs ou par des soignants, c'est pas du tout pour faire la même chose. Ça veut pas dire qu'il y a des gentils et des méchants, ça veut dire que l'objectif n'est pas, l'intentionnalité n'est pas la même. Et ça, à l'échelle, encore une fois, de ces volumes de données, c'est des questions importantes. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui, là aussi, depuis quelques années, tirent non pas une sonnette d'alarme, parce que, évidemment, les progrès qu'autorise le big data sont merveilleux, magnifiques, mais des chercheurs qui disent les choses suivantes. Attention, sur l'accès à ce big data, sur l'accès à ces énormes volumes de données, on est en train de créer une nouvelle fracture numérique. C'est-à-dire, en gros, il n'y a que Facebook, par exemple, qui a accès à des données qui intéresseraient, ce sont ces données, hein, parce que ce sont ces données, ce sont nos données, mais chez Facebook. Or, ces données, elles intéresseraient effectivement des chercheurs en sciences politiques, elles intéresseraient des États, elles intéresseraient des chercheurs dans plein de domaines. Il y a un certain nombre de pays pour lesquels l'accès à des infrastructures big data de données de santé n'est pas possible parce que c'est trop coûteux. Tout à l'heure, on disait que Twitter ou d'autres plateformes propose à des acteurs extérieurs de récupérer ces données via des API, ça a un coût. C'est-à-dire chez Twitter, ils ont une gamme de prix. Si vous voulez récupérer la totalité des tweets produits sur la plateforme, 500 millions par jour ou plus même, vous devez vous abonner à un machin qui s'appelle Firehose et qui a un coût tout à fait exorbitant auquel, en gros, personne ne peut souscrire. Donc, il y a un gap, un fossé qui est en train de se créer entre d'un côté, ceux qui ont les moyens d'accéder à ces immenses volumes de données pour les traiter, dans le cadre de politique, de santé ou autre chose, et de l'autre côté, des acteurs publics ou privés qui n'auront jamais les moyens d'accéder à ces données. Et là aussi, ça va poser des questions, encore une fois, politiques importantes.
Ça veut dire quoi ? Qu'il faudrait ouvrir finalement ces données à davantage de monde ?
Ça veut dire qu'il n'y a pas de... ça veut dire que c'est une question compliquée, donc il n'y a pas de réponse simple, mais ça veut dire qu'en tout cas... une partie de ces données que nous fournissons effectivement à ces acteurs, quand ces données sont amenées à être utilisées dans le cadre de politiques publiques, par exemple, il me paraît normal, essentiel, vital que des acteurs publics puissent avoir la main ou reprendre la main sur ces données et proposer des systèmes de régulation, ce qu'essaye de faire la CNIL ou ce qu'essaye de faire d'autres organismes.
Oui, on a une loi en France, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, qui s'appelle la loi pour une république numérique, qui date de 2016. C'est elle qui va obliger les communes de plus de 3500 habitants et toutes les autres collectivités locales à faire de l'open data. Mais cette loi, elle définit aussi quelque chose. Alors, c'est la première fois qu'elle met le concept en avant. Elle est pas très précise derrière, mais elle définit une notion qui est la notion de données d'intérêt général. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît très important pour aller dans le sens de ce que disait Olivier. C'est un petit peu l'une des thèses que je défends auprès des collectivités locales avec lesquelles je travaille, c'est de dire attention, dans la vie de tous les jours, dans l'organisation de la gestion urbaine, dans l'énergie, dans les transports, dans les déplacements des habitants, dans la manière dont vos usagers, les citoyens vivent, il y a tout un tas de traces, de données, de consommations diverses et variées qui sont d'intérêt général pour comprendre comment se vit un territoire, comment fonctionne un territoire et comment se déroule l'action publique qui régule les choses et qui fait le vivre ensemble que nous connaissons. Et ces données, aujourd'hui, elles sont massivement captées par des acteurs privés à des fins, et c'est bien légitime de leur part, à des fins commerciales. Et il se pose donc une question qui va compléter ce qu'Olivier a indiqué tout à l'heure par rapport à l'accès, qui est la question de la souveraineté publique sur des données d'intérêt général. Et ça se pose à l'échelle d'un État, ça se pose à l'échelle d'une région, ça se pose à l'échelle d'une ville. On a aujourd'hui des acteurs qui captent massivement des données. De façon caricaturale, il m'arrive de le dire à des élus locaux, Google en sait plus que vous sur les habitants de votre ville. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire Big Brother du côté public, du côté institution publique. Mais sans parler des données individuelles, il y a énormément de choses qui doivent être, d'une manière ou d'une autre, récupérées, stockées, protégées, gérées dans un cadre public, dans un cadre protecteur, dans un cadre souverain.
Et du coup, ces données-là, ces données publiques, finalement, ces données d'intérêt général, il faudrait que... comment est-ce qu'on peut contrôler qui y a accès, du coup ? Parce qu'une donnée d'intérêt général, d'abord, ce n'est pas forcément la même en France et ailleurs. Et puis, c'est toujours pareil, une question d'intentionnalité. Comment est-ce qu'on s'assure que la donnée d'intérêt général n'est utilisée que dans l'intérêt général ?
C'est toute la question des modèles de gouvernance. Hein. Nous, ça fait déjà plus d'un an qu'on travaille avec la CNIL pour définir à l'échelle d'un hôpital public qui et comment on a accès aux informations de tout l'hôpital. Hein. Et on peut comprendre que des données qui sont financées par notre solidarité publique, hein, elles sont payées par vous et moi au service d'un patient, elles puissent avoir effectivement être réanalysées, mises à disposition. Pas pour faire n'importe quoi et pas par quelqu'un tout seul qui décide que... Donc on a un système de régulation qui s'applique à tous. Et donc on décide ce qui est fait. Donc ça, c'est peut-être la première élément de réponse. C'est quels sont nos modes de gouvernance de la donnée puisqu'il y a des enjeux de pouvoir et derrière. Et puis la deuxième, je crois qu'il ne faut pas être trop naïf sans que ce soit un gros mot, de regarder quels sont les modèles économiques. Et en l'occurrence, même dans les institutions publiques, depuis 2005, on a mis beaucoup d'ordre. Hein. Il y avait des institutions publiques qui se vendaient entre elles des données publiques. Alors, attendez, on va se calmer peut-être. Les données d'immatriculation, par exemple, sont évidemment des données qui ont énormément de valeur. Bon, on a de l'information sur quelles sont les nouvelles voitures qui sont immatriculées où. Toutes les données qui concernent l'immatriculation des sociétés. Donc on a fait l'immatriculation des voitures, on fait l'immatriculation des sociétés. Ce sont aussi des données qui sont disponibles. Hein. C'est les tribunaux du commerce qui disposent de ces informations. C'est énormément d'informations qui peuvent être utilisées et qu'on a cherché à valoriser. Donc dans un gouvernement ou dans une forme d'État aussi centralisée que la France, on a effectivement beaucoup d'opportunités de valorisation de ces données publiques. Comment on le fait en toute transparence, c'est des choses très importantes et qui doivent être mises sur la place publique.
Ça ouvre un débat qui passionne beaucoup de juristes en ce moment, qui est celui des licences de l'open data. Quand un acteur public ouvre ses données, il y a une licence qui définit les conditions dans lesquelles ces données peuvent être réutilisées. Je caricature le schéma, je m'excuse s'il y a des juristes dans la salle, mais il y a d'un côté les partisans de l'ouverture complète, c'est des données publiques, elles doivent être ouvertes, ça veut dire qu'elles sont à disposition de tout le monde, c'est un bien public, les citoyens peuvent s'en servir pour contrôler l'action de leurs dirigeants, c'est positif, si des entreprises commerciales veulent en faire leur beurre, c'est leur affaire, et d'autres qui défendent plutôt l'idée de licences plus restrictives, qui font que les données vont être totalement ouvertes et accessibles pour des usages d'intérêt général, et dès lors qu'il y aura un usage commercial, il y a un certain nombre de restrictions qui peuvent apparaître. Donc ça, c'est des débats qui ont lieu actuellement, enfin depuis 7, 8, 10 ans, en comptant l'Amérique du Nord. Et on a aujourd'hui, par exemple en France, deux principales licences, une qui s'appelle la licence ouverte, qui a été définie par le gouvernement comme étant une licence de très grande ouverture, et l'autre qui s'appelle la licence ODBL, que certains présentent comme la licence anti-Google, parce que si Google récupère et utilise Google ou toutes ses filiales, parce qu'on ne les connaît pas toutes, mais elles sont très nombreuses à brasser, à collecter, à moissonner très largement de la donnée, et c'est une licence qui oblige celui qui utilise des données à mentionner la source de départ. Et on imagine mal Google être obligé à chaque fois qu'il réutilise des données de dire « Ah, attendez, excusez-moi, mais sur cette carte, je dois vous dire que ça venait de la ville de Nantes. » Donc ça ne fonctionne pas comme ça, et aujourd'hui, ces sujets sont sur la table avec une très très grande acuité. Google, en France, aujourd'hui, négocie pied à pied avec les grandes villes pour qu'elles adoptent une licence ouverte. Il y a des représentants de Google qui font le travail aujourd'hui en France, justement parce que nous sommes un des pays précurseurs en ouverture de données.
Oui, deux choses. Revenir sur l'importance du modèle vertueux qui a été présenté par Pierre-Antoine tout à l'heure, mais rappeler que à l'opposé de ce modèle, si on n'arrive pas à le généraliser, on arrive dans des situations où, à deux reprises, l'année dernière et il y a deux ans, Google, encore une fois, mais parce que c'est un des acteurs qui effectivement est le plus proactif sur ce secteur-là, mais a récupéré, j'ai envie de dire presque accidentellement, les données de santé de 1,6 million de patients au Royaume-Uni dans le cadre d'une expérimentation qui visait à développer une application à destination des médecins. Et il se trouve qu'au lieu de récupérer une partie des données, dans l'envoi de ces données-là, il a récupéré la totalité. Voilà. En Italie, c'est IBM qui, l'année dernière, pour entraîner son intelligence artificielle là, qui s'appelle Watson, et dans le cadre d'un partenariat là aussi, a récupéré, pareil, accidentellement, les données de santé complètes de 61 millions d'Italiens. Donc voilà, ça commence à poser un certain nombre de soucis si les modèles vertueux qui ont été présentés ne sont pas adaptés. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'à l'échelle du big data, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu un transfert de valeur dans l'économie numérique. C'est-à-dire que jusqu'à récemment, ce qui avait de la valeur pour ce qui faisait la valeur de ces sociétés, notamment, c'était leur boîte noire, leur secret industriel, c'était leurs algorithmes, en gros. C'est là-dessus que s'était construite leur valeur. Et aujourd'hui, on observe, encore l'année dernière, Amazon a mis en open source, en accès libre, ce qui est le cœur de son business model, c'est-à-dire son algorithme de recommandation. Il y a plein de gens qui, quand ils ont vu ça, se sont dit « mais ils sont devenus fous enfin, ». Le secret industriel, la manière dont c'est fabriqué, balancer ça comme ça, de manière ouverte sur le web, ils s'en fichent. Parce qu'en fait, la valeur, la vraie valeur aujourd'hui pour ces boîtes, c'est plus l'algorithme, ce sont les données qui permettent précisément d'entraîner l'algorithme. Et en libérant comme ça, en mettant dans le champ public leurs algorithmes, parce qu'Amazon l'a fait, mais d'autres l'ont fait, Google par exemple, la quasi-totalité de ces technologies qui relèvent de l'intelligence artificielle sont là aussi dans le champ public, en tout cas il les a mises à disposition, parce qu'en faisant ça, c'est un moyen pour eux de récupérer davantage de données, d'agréger ces données, et la valeur aujourd'hui de ces sociétés se construit d'abord sur ces énormes volumes de données qu'on appelle le big data. Donc ce transfert de valeur vers des algorithmes vers la donnée, il implique aussi des modèles de régulation, de gouvernance qui vont prendre conscience. Souvent les acteurs publics, ils n'ont pas conscience de la valeur des données qui sont à leur disposition. Il y a toujours un exemple qui me frappe, qui est un petit peu hors champ, je fais court. Quand Google a commencé à numériser des livres, il est allé voir les bibliothèques. Il leur a dit, on va numériser gratos les livres que vous avez chez vous. Bon, très bien, parce que ça avait un coût, l'État n'était pas prêt à payer ce coût, donc les bibliothèques étaient ravies. Et puis, incidemment, Google a dit aux bibliothèques, vous avez des données là qui sont des données de catalogage, des trucs pas du tout sexy, le nombre de pages d'un bouquin, le titre, l'auteur, etc. Vous en faites rien. Ça vous intéresse pas plus que ça, vous pouvez nous les offrir avec. On peut vous les prendre, ça vous embête pas. Et les bibliothécaires, ils ont dit, bah non, vous prenez... C'est des données triviales, pour nous, ça n'a pas de valeur. Une base de données de 2 millions d'ouvrages pour lesquels on n'a pas ces métadonnées, c'est totalement inexploitable. Et donc, les bibliothèques ont, avec beaucoup de candeur et d'innocence, offert en quelque sorte à Google un des outils qui lui a permis ensuite de remplacer, parce qu'heureusement il y a toujours des bibliothèques, il y en aura je pense toujours, mais en tout cas de s'installer de manière aussi forte sur le marché du livre.
J'ai zappé, j'étais passionnée, donc du coup j'ai un peu zappé ce que j'allais dire après.
Magali, je fais un petit commentaire comme vas-y. Ça tu peux pouvoir récupérer le truc. Un commentaire pour les plus jeunes, et j'ai vu que j'avais quelques étudiants en médecine dans la salle. On est en train de former une génération qui va à la bibliothèque moins pour consulter les ouvrages que pour être dans un endroit tranquille, au calme, pour pouvoir travailler tranquille. Et on a l'impression que ça a tout changé. Alors, ce qui a changé, c'est la facilité d'accès à l'information. C'est pas mais l'acte de connaître en lui-même, c'est-à-dire digérer cette information, la croiser, la synthétiser, la reformuler, ça n'a pas vraiment changé depuis Aristote. Hein. Et le fait que Google ou que Firefox ou Chrome ou Internet Explorer vous mettent à disposition de l'information qui devient plus disponible, c'est un énorme changement. Mais fondamentalement, ça ne change pas comment vous digérez ces connaissances. Alors, on est exposé à plus d'informations, mais l'acte de connaître, lui, ne change pas. Et c'est très, très important dans notre rapport à la connaissance. Et on peut croire que c'est plus facile. Je ne crois pas fondamentalement que ça l'est. Ce qui change, c'est qu'il n'y a plus besoin d'écrire à la bibliothèque à l'autre bout de la Terre pour avoir un ouvrage qui n'est disponible qu'en un seul exemplaire.
Jacques, vous voulez réagir ?
Si tu as retrouvé ta question.
Ma question. En fait, ça repart là-dessus. C'est finalement, oui, c'est vrai, on nous donne de l'information, mais le problème, c'est qu'on ne choisit pas quelle est l'information qu'on reçoit. On sait que, en fonction de notre profil Facebook, on va pas voir les mêmes informations d'actualité que le voisin qui a pas forcément les mêmes opinions, les mêmes avis. Donc on va être orienté finalement dans l'information qu'on reçoit. On sait que le résultat d'une recherche Google dépend de nos recherches précédentes. On sait que... alors aujourd'hui, je disais c'est que dans 6 pays, Facebook est en train de faire une expérience visant finalement à diminuer l'importance dans le fil d'actu de l'information en provenance des médias. Et augmenter finalement ce qui vient des amis ou de la famille ou tout ça. Mais du coup, comment est-ce que on peut dire que l'acte de connaître est le même quand on ne choisit pas l'information qui nous est fournie ? Qui veut réagir ?
Je me lance rapidement. Je mentionnais tout à l'heure les travaux de chercheurs. Il y avait un article qui est paru en 2011 qui s'appelait « 6 provocations pour les big data » qui était signé par Dana Boyd et Kate Crawford. Et où il y avait comme ça 6... c'était un petit peu plus développé, mais il y avait en tout cas donc 6 enjeux adressé à ce secteur qui était en train à l'époque de déclore, qui était le big data. Et l'un de ces enjeux, c'était que la collecte et le traitement automatique de données à cette échelle-là allaient changer, non pas la nature de la manière dont on apprend, mais allaient changer la nature de la connaissance. C'est-à-dire, on allait aller de plus en plus vers des types de connaissances qui sont, on pourrait appeler ça des connaissances procédurales. Ces énormes volumes de données, ils changent quelque chose dans ce qu'est, ou dans notre manière d'appréhender ce qu'est la connaissance, ce qu'est le savoir. Après, derrière, évidemment, l'humanité avance à son rythme et nos processus cognitifs, de mémorisation, d'apprentissage, ils ne bougent pas aussi vite. Mais il y a quelque chose qui change avec ces données dans la nature même de la connaissance. Et j'ai oublié, voilà.
Ouais, je crois, Olivier, si on veut être vraiment précis, je crois qu'on dit la même chose. C'est-à-dire que dans les procédures, c'est pas la même chose. C'est une réflexion que je trouve très utile aussi de se dire, il y a quelques années, qu'est-ce que c'était qu'un bon étudiant, alors on va dire en médecine. C'est les étudiants qui étaient très très bons en mémorisation. Et ceux qui sont profs maintenant, voire un peu plus vieux que moi, sont des encyclopédies sur pattes. Ils ont été sélectionnés parce qu'ils avaient une très grosse capacité de mémoire. Et la mémoire, c'est très important. Hein. C'est ce qu'on va trimballer avec nous comme connaissance immédiatement disponible et qu'on va mobiliser en réponse à un environnement. Alors aujourd'hui, peut-être que ce qui est en train de se passer, c'est un rééquilibrage vers une autre capacité qui est la capacité à poser une question, à aller chercher une information. Je sais ce que je sais que j'en sais pas beaucoup, mais je vais essayer d'aller trouver une information. Et ce qui va être important, c'est cette information qui est finalement plus facile d'accès, on a peut-être moins le temps de la mettre en question. Comment je peux être critique vis-à-vis de cette information? Comment je peux la, éventuellement la mettre en question et l'évaluer? Et pour vous donner une petite anecdote, vous savez qu'en en première année de médecine, on a 1670 étudiants cette année. C'est beaucoup. S'ils m'envoient tous un mail après chaque cours, j'ai un gros problème. Voilà. Et parfois, alors outre toute l'inquiétude qu'il y a liée à la sélection de cette première année de médecine, parfois on a envie de leur dire mais vas-y, tape la question dans Google et tu vas avoir la réponse. Je le fais pas pour une raison très simple, c'est que si vous le faites, moi je me balade avec toutes mes connaissances de prof et j'ai la capacité à regarder non mais ça pas bon, ça pas bon, ça pas bon. Hop, la réponse elle est peut-être un peu plus bas. Non. Et souvent je leur dis oui, Google est votre ami, peut-être. Oui, vous pouvez trouver l'information. Vous avez peut-être les moyens. Ce que vous avez moins, peut-être, ou que vous allez acquérir au cours de votre formation, c'est la capacité à mettre en cause l'information que l'on reçoit. C'est un problème qu'on a beaucoup avec les patients également. C'est facile d'avoir un peu d'informations sur Internet à propos de n'importe quelle pathologie, d'avoir peut-être l'impression qu'on va pouvoir en quelques clics en savoir autant, peut-être plus que le médecin. Ce qu'on n'a pas, c'est la capacité à évaluer de manière critique l'information qui est donnée, où il y a peut-être des informations qui sont tout à fait justes, mais qui ne s'appliquent pas dans une situation donnée. L'acte de connaître, c'est dire, cette connaissance, est-ce qu'elle s'applique dans ce contexte-là?
Et donc, finalement, les big data, demain, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, je pense à l'intelligence artificielle, évidemment, mais je pense aussi, finalement, qu'est-ce qu'on peut imaginer de faire de cette masse croissante de données?
Je me permets d'amener les choses sur le terrain de l'action publique. Parce qu'on parle beaucoup des usages du big data en matière commerciale. On voit que c'est quelque chose de redoutable, avec des ressorts qui ne sont pas tous connus. C'est sans doute d'ailleurs ça le vrai problème. Parce qu'après tout, un bon vendeur, je vais dire à la FNAC, qui vous amène à acheter des produits en plus que celui que vous étiez venu chercher, il a aussi un algorithme dans la tête qui lui a été enseigné dans sa formation de vendeur. Mais à côté de toutes ces dimensions que l'on voit, qui sont débattues, qui font polémique, Facebook a encore été condamné là fortement, en Espagne d'abord et à l'échelle européenne, coup sur coup la semaine dernière, il y a tout un tas d'usages de ces algorithmes pour l'intérêt général, pour la gestion de la ville, pour la gestion de la santé, pour la gestion sociale, qui ne sont pas encore aujourd'hui bien connus. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait important. On parle de Smart City, ici à Nantes, ailleurs. La Smart City, c'est une ville qui va être de plus en plus régulée, réglée, notamment dans la gestion de l'énergie, dans la gestion de l'eau, dans la gestion de nos déplacements, de notre mobilité, par des outils, par des algorithmes, dont la conception repose sur les mêmes modèles que tous ceux dont nous parlons jusqu'à présent. Donc là, on a des enjeux. On a des enjeux aussi sur l'éducation. Je vais prendre un exemple très précis qui, d'ailleurs, vont nous ramener aux conditions dans lesquelles on utilise ce big data pour des causes d'intérêt général. En matière d'éducation, on est capable aujourd'hui, en moissonnant, en brassant un volume très important de données, de construire des modèles prédictifs, en tout cas c'est expérimenté actuellement au Royaume-Uni, de décrochage scolaire, d'être capable de modéliser des parcours d'enfants et de se dire un tel, attention, il va falloir qu'on ait une attention particulière, un soutien renforcé, des dispositions spécifiques, parce qu'il va être, il va décrocher. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le même algorithme, c'est celui qui nous permettrait de dire, attention, celui-ci, ce sont les mêmes. À partir de maintenant, on les met dans une case à surveiller pour l'avenir, parce que ça sera des délinquants, etc. On a beaucoup d'exemples de réversibilité de ce style-là. Donc la question, c'est, quels usages? Quelle collecte de données? Quel consentement? On y revient. On va rester sur ces fondamentaux parce que c'est cela qui, la capacité que nous aurons à maîtriser cela, à savoir qu'il y a un algorithme derrière une décision. Moi, je parle du coming out des algorithmes, qu'on sache qu'il y a un algorithme derrière. Moi, il y a eu un cas important avec APB qui a été débattu, qui pourrait être l'objet d'une table ronde en tant que telle. La manière dont tout ça est utilisé ne peut pas être du seul ressort et du seul domaine du business, du commerce. Il y a plein d'autres usages possibles. Mais dans ces usages, qui sont des usages d'intérêt général, le niveau d'exigence en termes de sécurité, de probité, de transparence, de consentement doit être encore plus élevé que pour les usages commerciaux. Je caricaturerai les choses de façon simple. Que les sociétés commerciales déjà appliquent la loi, mais que les acteurs publics, eux, s'imposent des standards plus élevés que ce que la loi oblige.
Les autres ?
Ah, tout à fait d'accord, hein. C'est la question des usages, on leur a dit, je crois, tous les trois d'une manière différente. C'est la question des usages de ces big data qui doit être placée au cœur de nos réflexions. Alors, pour reboucler un peu sur la santé, et j'espère que la santé sera peut-être un modèle un peu extrême qui va rejaillir et inviter à être plus transparent sur les données collectées avec nos téléphones, nos circulations Internet, etc. La question de la sécurité des données est très importante. Elle est inscrite dans la loi en ce qui concerne les données de santé. La loi est beaucoup construite autour de la réidentification des individus. Donc, nous prenons les mesures de sécurité, de codage, d'anonymisation, parfois même davantage, pour ne pas avoir la possibilité, même technique, de réidentifier un individu. C'est très critique dans le domaine de la santé. Nous, on veut analyser des données individuelles. On n'a pas besoin de savoir que c'est monsieur un tel, madame un tel, etc. Donc ça, c'est très important, cette sécurité, données personnelles, capacité à réidentifier. La question des usages, et puis peut-être pour conclure aussi là-dessus, je ne suis pas sûr qu'on ait du big data dans la santé. Aujourd'hui, le big data dans la santé, il met le doigt là où ça fait un peu mal. On n'est pas toujours très bon pour structurer, intégrer toute l'information qu'on a. Et on sait surtout qu'il nous en manque beaucoup. On ne sait peut-être même pas dire quelle est l'information qui, demain, sera capitale pour décider d'un traitement. Pour vous donner un exemple, dans la sclérose en plaques, les plus grosses bases de données, elles ont suivi des patients pendant 10 ans, dans une maladie qui va en durer à peu près 40. Est-ce qu'on a du big data ? Est-ce qu'on a trop de données ? On a à peine un quart du suivi de la maladie chez un patient. On n'en a pas trop. On a en fait, par contre, peut-être qu'on mesure mieux ce qui nous manque. Et avec des données très complexes, contrairement à Amazon, je leur dis, quand on a discuté avec Google, je dis, mais en fait, vous, c'est hyper simple. Vous savez si votre client, il a acheté ou il n'a pas acheté. Moi, dire si le patient, il est guéri, en fait, c'est déjà pas très facile, en fait. On n'est même pas sûr qu'on soit capable de dire qu'est-ce que c'est que guéri, pas guéri, ou ce qui, même s'il va mieux, moins bien, c'est très multifactoriel. Et donc, on se doit d'intégrer des données très complexes, très hétérogènes, qui requièrent des expertises différentes. Donc un big data beaucoup plus compliqué dans le domaine de la santé.
Et là aussi, pour en forme de conclusion rapide, si on essaye de se replacer un petit peu en diachronie à l'échelle de l'histoire du web, on s'aperçoit qu'il y a eu trois grands âges ou trois grandes époques du traitement et de la collecte des données. Le premier âge, qui était quasiment la préhistoire, c'était les données, elles venaient des documents. Et là, le modèle économique et le grand chef, c'était Google, qui a été le premier à être en capacité de mobiliser un volume aussi important de documents à portée d'indexation. Le deuxième âge, ça a été on est passé des documents au profil, et là, on a commencé à agréger des données personnelles. Et ça, c'était l'âge des réseaux sociaux. Et là, encore une fois, celui qui a raflé la mise, c'est aussi un acteur privé, c'est Facebook, qui a été le premier en capacité de déployer des services à l'échelle de cette volumétrie de données. Et il me semble qu'il y a aujourd'hui un troisième âge du big data, ou en tout cas de la collecte de données dans lequel on est en train de rentrer. C'est tout ce qui est lié en partie à la médecine, et notamment à ce qu'on appelle la génomique personnelle, où là, c'est pas non plus un hasard si toutes ces grandes firmes s'intéressent de très près à ces secteurs, et avec à chaque fois la même logique, qui est une logique étymologique de séquençage, c'est-à-dire on va produire des séquences de documents, ça c'était Google, on produit des séquences de profils, ça c'est Facebook, et puis on va tenter à l'échelle de chaque individu de séquencer pour un coût qui chute chaque année son propre génome. Et il y a deux risques derrière, pour faire très court. Le premier, c'est à tous ces âges de la donnée, au final on produit de la stéréotypie, c'est-à-dire que plus on a de données, paradoxalement, dans le cadre d'un usage grand public, et plus on va produire des stéréotypies. C'est le meilleur exemple, c'était sur Google, quand vous tapez « est-ce que les Noirs sont ?» ou « est-ce que les Juifs sont ?» et en suggestion de recherche, vous avez des trucs absolument immondes, malheureusement, et racistes. Pas parce que la plupart des gens sur Internet sont racistes, mais parce que, pour un certain nombre de raisons, mais en tout cas, ça renforce des comportements et des attitudes stéréotypiques. Et quand on passe à l'échelle de l'individu, ça c'est ce qu'on a vu sur Facebook, cette immense quantité de données, elle exacerbe en fait des points qui sont déjà saillants. C'est-à-dire que des individus qui étaient plutôt pour habitude de voter plutôt à gauche, à force de rentrer dans ce schéma algorithmique de calcul où on brasse des immenses quantités de données, on ne va leur proposer que des choses qui vont les amener petit à petit à se radicaliser entre guillemets vers l'extrême gauche. Même chose à droite. Donc on exacerbe des points de vue, on produit de la stéréotypie. Ça, c'est les deux grands dangers. Et pour éviter ces dangers, il faut effectivement des politiques de régulation publique, il faut des bonnes pratiques en médecine et ailleurs.
Ou peut-être personnaliser un peu moins et neutraliser un peu plus.
Les secteurs où on a besoin de personnaliser effectivement en médecine pour proposer certains traitements.
Oui. Je vais laisser la parole au public. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que... D'accord, il y a des questions.
Merci. Est-ce que pour éviter les dérives, il ne faudrait pas assurer une traçabilité des données avec un outil dans lequel on mettrait les données qu'on souhaite partager avec différentes strates? Par exemple, une, on estime ça c'est pour de l'open data, ça c'est pour des strates plus restreintes, pour des organismes commerciaux, etc.
Il y a des expériences en cours en ce sens, et notamment des systèmes qu'on appelle de self-data, où on donne la possibilité à des individus de stocker dans des espèces de conteneurs protégés toutes leurs données individuelles. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on en a besoin, on vous demande votre consentement. Et il y a actuellement des expériences qui impliquent notamment la Maïf, Orange, EDF et quelques autres acteurs qui ont proposé à un certain nombre de leurs clients de leur redonner, reprenez le contrôle de vos données. Et à chaque fois qu'on en aura besoin, on vous demandera votre consentement. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on les utilise pour vous envoyer, je caricature un peu, mais pour envoyer telle facture, ça, ça correspondait à l'ancienne case. Je suis d'accord pour que vous collectiez mes données pour votre usage strict. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on utilise vos données pour améliorer votre expérience client? À chaque fois que vous voyez ça sur une condition générale, ça veut dire algorithmie, modélisation. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on utilise vos données pour vous adresser de la publicité, etc. Donc l'idée, c'est des expérimentations qui sont en cours. Ça reste à l'état d'expérience. Pensez-y pour vous-même, reprendre le contrôle de toutes les données que vous avez mises à disposition de tout un tas d'acteurs et tout un tas de services, c'est des minutes ou des dizaines de minutes quotidiennes.
Une question à gauche et
pour
ensuite
nous
par ici.
Magali, juste c'est important, nous on trace systématiquement tous les accès aux données de santé et comment elles sont utilisées. Donc, oui, vous avez accès, mais oui, vous êtes rendu responsable de l'usage que vous faites de ces données. Est-ce que ça correspond bien à ce que vous faites? Et vis-à-vis des gens qui ont été en partie à la source de ces données, il y a des systèmes d'information. Alors, on n'a pas toujours la possibilité de revenir à l'individu qui a permis de produire cette information, mais on essaye d'être le plus transparent possible sur quelles sont les études qui sont faites et pourquoi.
Madame? Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous entendez.
Non.
Ça marche? Non. Comme ça, c'est mieux? Voilà.
Oui.
J'ai assisté à une conférence tout à l'heure où on parlait de 250 millions de réfugiés climatiques en 2050. Est-ce que le Big Data peut nous aider par rapport à cette question? J'avais aussi deux petites réflexions. C'est des proverbes un peu, que trop d'informations nuit à l'information. Est-ce que c'est toujours vrai? Et puis la dernière petite réflexion aussi, c'est par rapport au secret médical. Est-ce qu'il y a encore un secret médical, sachant que de toute façon, même quand on est dans le cabinet du médecin, on est trois, l'ordinateur, le médecin et nous. Merci.
Rapidement sur les réfugiés climatiques, puis après je vais laisser. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des outils, enfin c'est une réalité sociale et climatique qu'on connaît. On a des outils de modélisation qui fonctionnent et qui sont utilisés dans plein d'autres secteurs, en médecine, dans le domaine des pandémies par exemple, ou des choses comme ça. Donc il y a une modélisation possible, rationnelle, objectivable de ces phénomènes. Et on voit bien, et c'est tout l'enjeu de ce sujet-là, qu'en dépit de toutes les modélisations possibles et imaginables, derrière, en dernier ressort, on est face à une décision qui relève du champ de l'intervention publique. Voilà. Qu'est-ce qu'on décide de faire une fois qu'on a ces données? Qu'est-ce qu'on en fait? On sait que ça va arriver, c'est quantifié, c'est chiffré, on sait quand, on sait pourquoi. Quelles sont les politiques publiques qu'on va mettre en face ou pas? Voilà. Donc le big data en lui-même n'apporte pas de réponse, il ne fait que poser des questions que la puissance publique accepte de traiter ou de déléguer à d'autres.
Il nous reste 2 minutes, donc on avait une question ici.
En fait, j'ai 2 petites questions. La première, c'est que vous avez parlé des 3 R de collecte de la donnée, documents, profils, puis génome. Où est-ce que s'intégreraient les données qui viennent de, par exemple, de capteurs IoT qui ne seraient pas forcément liés à un individu sur cet axe-là? Ma deuxième question, je les pose, ce serait plutôt de revenir sur le thème du festival. D'après vous, d'ailleurs on sait que les techniques statistiques qui sont derrière le Big Data, elles existent depuis plusieurs décennies. On pourrait même remonter jusqu'à Bayes si on voulait. D'après vous, quelles seraient les techniques émergentes ou qui émergeraient, qui pourraient façonner qui pourraient avoir des applications pratiques dans 30 ou 40 ans, par exemple?
Sur l'Internet des objets, juste effectivement, c'est un oubli à force de vouloir faire court, mais il y a effectivement les objets connectés et ce qu'on appelle les capteurs passifs, c'est-à-dire tout ce qui est dans notre environnement et qui en permanence collecte de la donnée. À l'échelle de nos maisons, c'est tous les assistants vocaux qui sont déployés aujourd'hui par les firmes, mais il y en a plein, notamment dans les smart cities. Et ça, effectivement, c'est le troisième âge, et le quatrième serait celui du génome.
Juste sur l'évolution future de ces outils, je vais le résumer sans en parler parce qu'on n'a pas le temps, en disant que c'est l'ère de l'intelligence artificielle qui arrive derrière, qui n'est pas exactement la même chose que le big data, qui est une manière d'apprendre et d'enrichir de l'ensemble de ces modèles prédictifs pour aller vers les utopies.
Alors, nous, on réfléchit beaucoup. L'intelligence artificielle, c'est beaucoup d'algorithmes différents. C'est pas que de la prédiction, c'est aussi de la comparaison, c'est peut-être de la recommandation de données. Hein, donc très important de bien faire ça. Et je crois, dans ce qui va se développer de plus en plus, on a jusqu'à présent beaucoup pensé l'analyse de données en moyenne, en groupe. Et on a en fait maintenant les capacités de plonger dans l'hétérogénéité, de s'interroger sur ce qui fait les variations. Donc peut-être justement l'inverse de ce mouvement un peu très normatif que le big data porte en lui, peut-être à cause de ses racines historiques.
Voilà, je suis désolée, il n'y a plus de temps. Jacques est attendu maintenant à la librairie pour une séance de dédicace. Donc il faut vraiment s'arrêter. Je vous remercie à tous pour la participation. Merci messieurs.